Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonjour à tous. Dans Afrique 7 jours aujourd'hui, nous irons en Casamance où des jeunes, dont des enseignants, ont initié des cours pour aider les élèves à relever leur niveau scolaire. Ces cours se sont déroulés durant la période des vacances et les initiateurs en sont plutôt satisfaits. Notre correspondant Mamadou Alpha Diallo les a rencontrés. Et à mes côtés dans ce studio, Claire-Marie Costman, bonjour.
Bonjour.
C'est avec vous qu'on passera en revue aujourd'hui l'actualité africaine vue par les journaux allemands.
Oui, cette semaine, nous parlerons d'Ebola qui ravive les traumatismes de la guerre civile au Libéria, mais aussi des difficultés du pont aérien entre le Sénégal et les pays touchés par le virus. Les journaux allemands s'intéressent également au sort des migrants africains un an après le drame de Lampedusa.
Merci Claire-Marie, on vous retrouve tout à l'heure pour le développement. La baisse du niveau des élèves à l'école, une problématique bien réelle dans plusieurs pays, notamment sur le continent africain. Comment relever le niveau scolaire? C'est l'une des préoccupations des enseignants. En Casamance, le sujet reste d'actualité alors que les élèves du cours élémentaire ont repris cette semaine le chemin de l'école. La rentrée pour ceux du secondaire, ce sera pour le 8 octobre prochain. Pour relever le niveau des élèves et encourager ceux qui s'en sortent déjà plutôt bien à continuer dans cette voie, des jeunes, parmi lesquels des enseignants, se sont regroupés pour organiser des cours à leurs jeunes frères et sœurs, surtout ceux des quartiers défavorisés. Ces cours se sont déroulés durant la période des vacances. Notre correspondant, Mamadou Alpha Diallo, a assisté à une cérémonie qui a marqué leur clôture.
Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Un groupe de jeunes d'une association parmi lesquels des enseignants basés à Gigansor vont s'approprier de ce célèbre dicton du président John Kennedy. Ces jeunes s'investissent bénévolement pour aider à relever le niveau des enfants par l'organisation de cours de vacances à travers des quartiers populaires de la ville. Kerno Omar Diaw, le président de l'association, explique ce qui les a poussés à prendre une telle initiative.
C'est un constat qu'on a fait. Au niveau de nos écoles, parce que j'enseigne, je me rends compte que les élèves qui nous viennent de ces écoles polarisant le CMT, ils ont un niveau très très bas parfois. Donc nous nous sommes dit entre membres de l'association que nous pouvons faire quelque chose par rapport à ces enfants. Puisque nous sommes en train de faire des œuvres communautaires, c'est-à-dire participer à la réalisation ou bien au service communautaire, alors c'est ça qui nous a motivés. On a fait appel à l'ensemble de nos membres pour recenser les enfants qui sont dans ces situations, mais aussi des enfants qui ont un bon niveau pour les maintenir dans ce bon niveau-là.
Les enfants que vous avez encadrés, ils sont dans quel cycle?
C'est le moyen qu'on a ciblé, c'est-à-dire les enfants qui sont en 6e jusqu'en 3e. Ce sont ces enfants-là qu'on a ciblés. Maintenant, s'il nous arrive qu'un parent d'élève veuille qu'on prenne en charge son enfant qui est à l'élémentaire, donc là, on fait intervenir les membres de l'association parce qu'on regorge de ressources humaines. Il y a des moniteurs, il y a des enseignants de l'élémentaire, du moins et du secondaire. C'est toute cette masse de ressources humaines-là qui fait en sorte qu'on peut réaliser beaucoup de choses avec cette association.
Maguette Diop, le chargé du comité de gestion de l'établissement qui a abrité ses cours de vacances, se dit satisfait de revoir ces arts d'initiative qui avaient disparu.
Ça se faisait dans les temps, mais maintenant, ça fait longtemps qu'on ne voyait plus ça. Je suis vraiment satisfait parce que des jeunes enseignants qui ont sacrifié leurs vacances pour aider les jeunes, ça c'est louable, c'est satisfaisant.
Georges Mansali, adjoint au maire de Gigansor, s'est félicité également de cette initiative.
Je suis très content de voir que des jeunes de quartier s'approprient le concept du président Kennedy. Il disait qu'il faut voir ce que vous pouvez faire pour votre pays et non ce que le pays peut faire pour vous. Si tout le monde faisait la même chose, je crois qu'ils auraient à aider beaucoup les autorités de la commune. Donc c'est évident que je serai toujours à leur côté, je n'hésiterai pas à les accompagner parce que je sais bien ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour le bien de la communauté et c'est pour le bien de la population du terrain.
À noter que le Sénégal vient de tenir il y a juste un mois les états généraux sur l'éducation et le niveau de plus en plus faible des élèves à l'école était l'un des principaux sujets au centre des débats. Mamadou Alpha Diallo, à Gigansor pour la Deutsche Welle.
Et Afrique 7 jours continue sur la Deutsche Welle avec la revue de la presse. On retrouve Claire-Marie Kosman. Claire-Marie, l'avancée du virus Ebola en Afrique de l'Ouest fait encore cette semaine beaucoup réagir les journaux allemands.
Oui, Die Tageszeitung s'est penchée sur la situation au Libéria où l'épidémie ravive les traumatismes de la guerre civile. Une guerre civile qui a duré de 1989 à 2003. Le journal donne la parole à une responsable de l'ONG Medica Mondiale qui soutient particulièrement les femmes et les jeunes filles. Caroline Beauvoir raconte que les malades qui sont mises à l'isolement doivent aussi être prises en charge psychologiquement. Ce n'est pas seulement Ebola qui se répand, mais la peur, et en particulier la peur de mourir. Le matin, les gens se réveillent au son des sirènes des ambulances qui viennent chercher des personnes infectées ou des cadavres. Caroline Beauvoir explique que son équipe apporte tous les jours à manger à deux femmes placées en quarantaine. Elle les appelle aussi tous les jours pour les calmer et les rassurer, car des pensées suicidaires surviennent, dit-elle. L'épidémie d'Ebola a empêché les déplacements, décimé des familles et des groupes d'amis, réactivé la peur de la faim à cause de la hausse des prix alimentaires et des pénuries. De nombreux souvenirs de guerre se sont réveillés. Les Libériens se sentent en profonde insécurité, souligne Die Tageszeitung. Face à un État qui n'a pas la confiance de ses habitants, se développent des réseaux de solidarité dans la société civile. Ce sont avant tout les femmes les plus actives. Elles apportent par exemple des vêtements et de la nourriture avant que des personnes malades soient mises à l'isolement.
Et un autre article de Die Tageszeitung dénonce la lenteur de l'aide internationale.
Le pont aérien est en place, mais presque personne ne l'utilise, titre le journal. Il fait référence à la base qui doit être mise en place au Sénégal pour permettre l'acheminement de l'aide vers les pays touchés par Ebola. Mais seul le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a utilisé un avion en direction du sud de la Guinée, où il doit apporter de la nourriture aux habitants. Et encore, ce n'était qu'un vol d'essai, selon un responsable onusien. Dans 3 à 4 semaines, tout sera en place, indique le Sénégal. Une nouvelle route pour accéder à l'aéroport, un nouveau bâtiment où transiteront les personnels de retour des pays touchés et où seront effectués des tests pour savoir s'ils ont été infectés par Ebola. Le Sénégal s'est proposé comme plaque tournante de l'aide pour contrer le virus. Il était en compétition avec le Ghana où les États-Unis font décoller leurs avions pour aider le Libéria. Selon le journal, la Bundeswehr, l'armée allemande, mettra aussi plusieurs semaines avant d'envoyer des volontaires en Afrique de l'Ouest. On ne s'attend pas à les voir avant fin octobre, s'agace le journal. Autre difficulté, l'argent. Le centre logistique de l'ONU au Sénégal n'a pas encore reçu les 11 millions de dollars promis.
Die Welt revient, lui, sur les critiques à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé.
Et elles sont nombreuses, trop lentes, pas assez réactives, mal préparées et mal coordonnées. Les critiques sont récurrentes envers l'OMS depuis le début de l'épidémie de fièvre hémorragique. Une épidémie que l'OMS n'a classée en urgence mondiale que cet été. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation ne fonctionne que grâce à la bonne volonté des États. Du coup, les bureaux régionaux sont soumis au pouvoir en place et obéissent plus à des raisons politiques que médicales, selon un membre d'une ONG. Un quart de son budget est fourni par les 194 États membres, le reste vient de donateurs privés. En 2013 et en 2014, l'Allemagne a par exemple donné 284 millions d'euros à l'OMS. Mais les recettes baissent et cela a des conséquences concrètes. L'OMS cherche à faire des économies. Pour le budget 2014-2015, l'enveloppe accordée aux services d'urgence pour les épidémies et une réponse rapide a été réduite de 469 à 228 millions de dollars. L'équipe du département a perdu 60 employés. Une réduction budgétaire ne peut pas se faire sans entraîner des faits, insiste le journal.
On va parler d'un tout autre sujet à présent. Claire-Marie, il y a un an se déroulait un drame de l'immigration en Méditerranée. 500 migrants se trouvaient sur une embarcation. Près de 400 d'entre eux sont morts lors du naufrage près de l'île italienne de Lampedusa.
Ditsa est à retrouver un survivant du drame, Fitsoum, un érythréen de 21 ans qui rêve de devenir ingénieur. Il vit dans un foyer près de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne. Depuis décembre, il attend une réponse pour sa demande d'asile. Et la nuit, il fait encore des cauchemars comme lorsqu'il était en mer. Il décrit pour le magazine la vie dans son pays natal. Il faut marcher 1h30 avant de trouver de l'eau. Au marché, il n'y a presque rien à acheter. Une grande partie de l'économie est entre les mains de l'armée et hommes et femmes doivent faire leur service militaire. Fitsoum aussi l'a fait et il a compris qu'il n'aurait pas d'avenir dans son pays où on ne peut pas poursuivre d'objectifs personnels, raconte-t-il. Son frère a déjà fui l'Érythrée, il travaille en Israël 12 heures par jour pour un salaire modique. Mais peu importe, Fitsoum veut partir. Il arrive à rejoindre l'Éthiopie, puis le Liban, la Libye et enfin l'Europe.
Et la Süddeutsche Zeitung a rencontré de son côté deux migrants qui rêvent d'Europe à Melilla, l'enclave espagnole.
Oui, Carole et ses migrants qui, pour atteindre ce rêve, ont traversé le désert du Niger pendant de longues heures à la merci des trafiquants. Il s'agit de deux cousins camerounais, Ahmed et Souleymane, 22 et 23 ans. Ils ne connaissaient pas la ville de Melilla avant d'y arriver. Ce qu'ils voulaient, c'était simplement rejoindre le Maroc. On y parle le français et c'est un pays musulman où ils pourront pratiquer leur religion. Mais les jeunes hommes n'arrivent pas à trouver d'emploi, alors ils veulent gagner l'Europe. Et malgré la triple barrière qui entoure l'enclave espagnole, souligne la Süddeutsche Zeitung. En juin, les deux cousins ont tenté avec un millier d'autres migrants de forcer la frontière. Des migrants ont payé de leur vie la tentative de passage vers l'Europe. Souleymane s'est blessé au visage, mais la route sera encore longue. 95% des demandes d'asile sont rejetées. La pauvreté ou la corruption qui existent dans les pays d'origine ne sont pas, dans le droit européen, des motifs d'asile.
Merci beaucoup Claire-Marie pour cette revue de presse. Ainsi prend fin ce magazine Afrique 7 jours. À la présentation, c'était Claire-Marie Costman et Carole Assignon. Et si vous souhaitez donner votre point de vue sur le reportage diffusé dans cette émission ou sur l'Afropress, la revue de l'actualité africaine développée dans la presse allemande, il vous suffit de nous envoyer un SMS au 0049 176 64 12 12 63. Vous pouvez également nous écrire à français-sans-cédille@dw.de. Merci encore de nous avoir suivis et merci également de rester fidèles au programme de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande.